9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On va bien se poêler avec Nadia El Bouga ce matin. Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Comment ça va, Nadia ?
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Non, attendez,
on va bien se poêler, ce ne sera pas barbant.
Attendez, non, ce ne sera pas. Alors, attends, je ne vais pas prendre un autre micro parce qu'il faut qu'on vous entende. Ne me laissez pas tout seul dans cette histoire. Voilà.
Voilà. Oui, je disais donc.
Ah, voilà, c'est bien.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. J'ai donc juste à tester. Effectivement, nous n'allons pas.
Nous n'allons pas
être barbants.
Espérons, puisque nous allons parler de l'histoire du poil avec notre invitée Marie-France Osépi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes historienne. Alors, c'est vrai que votre histoire du poil n'est pas très récente. Elle a une douzaine d'années. C'était avant le retour en force de la barbe. Si vous deviez écrire un tome 2 de votre livre, qu'est-ce que vous diriez de cette apparition barbue depuis quelques années ?
Oui, le livre est un peu moins ancien que ça, mais la barbe est à la mode désormais, mais la mode pour le poil change très vite. C'est vraiment quelque chose qui est très volatile. La mode concernant le poil est quelque chose qui varie très souvent et assez brusquement.
Une histoire qui continue à s'écrire, comme vous dites.
Oui, bien sûr.
Le poil a un langage social, lequel ?
C'est évident, si vous voyez quelqu'un qui a des locks, vous le classez immédiatement. Rien que de le voir. Si vous voyez quelqu'un un homme qui a des cheveux très ras, qui a pas de barbe, vous dites où il doit être un peu militaire. Il y a évidemment qu'il y a immédiatement la vue de quelqu'un et de la façon dont il gère, si je puis dire, son poil. Il y a immédiatement une traduction intérieure sociale.
Alors c'est intéressant parce que moi je vous parlais de poils et vous m'avez répondu sur les cheveux. Alors est-ce que quand on parle de poils et des cheveux, on parle de la même chose ?
Bah bien sûr.
Et alors vous avez parlé du poil des cheveux, mais pas du poil pubien.
Non, enfin pas, oui, oui.
Qui est quand même aussi, on y viendra, je pense, un élément important, notamment comme indicateur peut-être du genre et d'autres signifiants ou signifiés.
Oui, mais ça dépend, bien sûr, que... l'interprétation qu'on donne au fait que on rase ou qu'on ne rase pas ou qu'on éradique d'une façon ou d'une autre les poils pubiens pour les hommes ou pour les femmes, c'est n'a pas la même d'ailleurs comme toujours en ce qui concerne le poil, en fonction du lieu où on se trouve et de du moment où l'on est, l'interprétation n'est pas la même. Le poil est forcément interprété en fonction des impératifs sociaux, moraux, d'une époque et d'un lieu. Oui.
Quel est l'intérêt justement de retracer l'histoire du poil à travers les différentes civilisations, à travers les différents peuples en tant qu'historienne, qu'est-ce que cela amène de plus dans la compréhension sociologique ?
C'est une façon d'attaquer une époque qui est intéressante, parce que c'est effectivement quelque chose sur lequel l'attention des historiens d'habitude n'est pas attirée, et qui est justement, comme je vous le disais, le fait que d'un coup d'œil on puisse classer les gens en fonction de leur aspect qui est vestimentaire mais qui tient beaucoup au poil, ça c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant pour les sociologues, mais pour les historiens aussi, bien sûr.
Mais aujourd'hui, Marie-France Osépi, on ne porte plus la barbe comme on la portait avant. Aujourd'hui, dans notre société, tout le monde porte la barbe. Alors, est-ce qu'on peut en tirer finalement les mêmes conclusions qu'on en tirait avant ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand dans une société, tout le monde porte la barbe, est-ce qu'on peut en déduire qui il est ?
Mais attendez, tout le monde ne porte pas la barbe.
En tout cas, il y en a beaucoup plus qu'à une époque.
Oui, je suis entièrement d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire que tout le monde porte la barbe, c'est pas vrai. Même si les militaires et les policiers commencent à réclamer de pouvoir porter la barbe, mais pour le moment c'est pas encore une règle générale. C'est effectivement une mode qui s'est installée de façon très massive, oui.
Alors justement, en introduction de votre livre, hein, Histoire du poil, qui a été réédité en 2017, qu'est-ce que vous donnez l'exemple très très récent du Premier ministre Édouard Philippe qui s'est laissé pousser la barbe en opposition au président qui lui est
glabre
tout à fait, donc tout lisse. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication sur certains changements, puisque jusqu'à maintenant, lorsqu'on avait certaines fonctions, on était plutôt dans l'obligation de se lisser le visage, et la barbe de 3 jours n'était pas très bien vue.
Oui, absolument. C'est tout à fait clair. D'ailleurs, c'est très amusant de voir. J'avais un CD sur la présidence de la République à travers les âges, et il y avait les portraits des présidents de la République. J'avais une petite fille chez moi, elle ne savait pas quoi faire. Je dis, écoute, tu vas classer les présidents de la République, ceux qui ont de la barbe et ceux qui n'ont pas de barbe. Tous ceux qui avaient de la barbe, c'était avant 14, avant 1914. Et ceux après 1914, ils avaient la moustache, et après 45, ils n'avaient plus ni barbe ni moustache. Donc effectivement, dans cette continuité, le duo président de la République, Premier ministre, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, effectivement, il dit quelque chose. Il dit le président de la République reste dans la fonction, mais il y a de la nouveauté parce qu'on permet au Premier ministre d'avoir la barbe.
C'est réfléchi, ça, en fait.
Ah, sûrement, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, le président de la République ne pourrait pas se faire pousser la barbe. C'est ça que ça veut dire ?
En fonction, je veux dire. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que si le président de la République se laisse pousser la barbe, ça veut dire quelque chose.
Et ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire que effectivement, il abandonne le
cadre imposé jusque maintenant.
La façon d'être, le comportement de ses prédécesseurs. Donc, on est dans
une
nouveauté qui s'installe.
D'ailleurs, dans votre livre, vous citez également, il est cité la signification. Alors du coup, là, pas de. On reviendra sur la barbe, mais du rôle de la moustache. Notamment, vous avez pris l'exemple de la Turquie. C'est-à-dire en fonction de la forme de la moustache.
Absolument.
On peut classer telle ou telle personne suivant son appartenance politique.
Il y a quatre.
Oui, il y a plusieurs formes.
Il y a quatre codes. Hein, c'est codifié en quatre formes.
Oui, et de la façon dont elle est coupée, on sait si on a affaire à un homme de gauche, un homme d'extrême droite ou. Oui, bien sûr. Ça, c'est. Effectivement.
En tout cas, ça nous donne 4 types d'informations, l'âge, la génération, le rang, l'appartenance communautaire, finalement, ce type de moustache. D'ailleurs, à noter que la moustache à la turque revient énormément à la mode.
Oui, mais là, à la turque, ouais. Ça, c'est dans le livre, c'est Monsieur Flich qui avait fait l'article sur ce point, et parce qu'il avait travaillé là-dessus. Et effectivement, il y a la moustache en croc qui descend de part et d'autre de la bouche, qui est celle des loups gris, enfin de l'extrême droite. Il y a la moustache kurde, mais kurde est aussi de gauche, stalinienne. Enfin bon, il y a la moustache sudnette, enfin qui est complètement suivant les indications religieuses. Donc les poils ne doivent pas toucher la lèvre. Voilà, il y a toute une série la moustache est un marqueur. Oui.
Je vous préviens, de toute façon, après la barbe, c'est la moustache qui va venir à la mode. Alors entraînez-vous. Hein.
Mais vous savez que à la fin du 19e, au début du 20e, les garçons de café parisiens ont fait la grève parce qu'on voulait leur
retirer
la moustache.
On voulait leur retirer les moustaches. Mais c'est vrai que le problème, c'est que la moustache, c'est plus difficile à porter physiquement que la barbe. Donc c'est pour ça que les gens et ceux qui n'ont pas beaucoup.
Excusez-moi,
pour les hommes, si vous voulez, vous avez plus ou moins de poils au-dessus de la moustache et vous avez une moustache plus ou moins fournie. C'est ça que ça pose problème. Si je peux m'exprimer, Marie-France. Hein.
Mais absolument. Oui,
Et c'est pour ça qu'il est plus difficile à porter. Bon, alors finalement, la pilosité, qu'est-ce que ça nous dit d'une société?
Ben, ça dit des choses différentes pour chaque société.
En fonction des époques.
Oui.
Alors justement, si on prend l'époque des premiers textes bibliques, il y a eu, c'est très bien expliqué dans votre livre, des changements alors artistiquement, la représentation du Christ a changé, c'est-à-dire que il y a un temps où Jésus-Christ était représenté avec une barbe, des cheveux longs, et puis il y a eu une phase où cette barbe a presque disparu, ou en tout cas était quasiment pas visible. Qu'est-ce que ça dit sur le plan du religieux? Le fait de changer comme ça la représentation et l'apparence du Christ dans les tableaux, enfin dans l'art qui représente, voilà, dans l'art religieux exactement.
Écoutez, ça a commencé, si je puis dire, en Orient, dans l'Église orientale, dans la chrétienté orientale. Le Christ était représenté barbu ou pas barbu, selon ce que le peintre voulait montrer du Christ, soit que ce soit le Christ jeune comme Apollon, ou que ce soit le Christ en majesté comme Jupiter. Donc, dans un cas, imberbe, dans l'autre, barbu. Et puis, il y a eu, dans l'Église orientale, une crise qui a opposé l'appareil d'État, enfin, l'empereur et l'appareil d'État, qui était imberbe, aux moines qui étaient barbus. Et l'appareil d'État a brûlé la barbe des moines. Finalement, ce sont les moines qui ont gagné. Et à partir du moment où, à partir de cette victoire des moines, les moines étant barbus, donc, le Christ a été représenté systématiquement barbu. Donc, cette représentation du Christ barbu, elle est la traduction dans l'art de la victoire des moines dans la chrétienté orientale. Et c'est passé ensuite en Occident.
Mais justement, le fait que ces moines aient choisi une interprétation de certains textes bibliques qui allaient plutôt dans le sens de laisser la barbe aux hommes, qu'exprime ce choix? Est-ce que c'est l'expression d'une virilité ou la différenciation de se différencier des femmes? Qu'est-ce que ça signifie?
Non, c'est plutôt pour ne pas changer, puisque l'homme est censé être l'image de Dieu, selon la Bible, c'était plutôt pour ne pas pervertir cette image de Dieu par un acte volontaire des êtres humains.
Marie-France Osépi est historienne, elle est avec nous ce matin pour nous parler de l'histoire du poil. C'est le titre du livre qu'elle a coécrit, qui ressort aujourd'hui en poche. On parle du poil jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors nous parlons de l'histoire du poil avec Nadia Elbouga et Marie-France Osépi, qui est historienne et qui a dirigé ce livre « Histoire du poil » dont nous parlons ce matin. Et le poil est avec les ongles, la seule partie du corps qui pousse et qui doit être coupée de temps en temps. Donc c'est une partie du corps sur laquelle on peut agir à notre gré.
Et qui ne meurt pas.
On l'a vu avec Henri IV.
Oui, effectivement, puisque on a retrouvé... Le cercueil d'Henri IV à Saint-Denis, et on avait il avait gardé ses cheveux et sa barbe.
Sa barbe qui était devenue blanche, hein, donc il y a une anecdote que vous racontez, et quelqu'un en a coupé un bout, il se l'est mis en forme de moustache.
Oui, c'était un soldat révolutionnaire qui affirmait son ardeur révolutionnaire de cette époque.
Alors Nadia, c'est comme vous voulez, on y va ou sur la virilité ou sur les eunuques? Qu'est-ce que vous préférez?
Moi, les eunuques m'intéressent.
Oh, ça m'étonne pas de vous. Alors, moi je vous laisse sur les eunuques.
Non, puis en plus nous avons une spécialiste de
Marie-France, elle est spécialiste des eunuques.
Ça
m'étonnerait.
De la période byzantine, donc voilà, profitons-en. Parce que justement... à Byzance, en fait, il nous est dit dans le livre que le poil, enfin, il y avait une organisation sociale de trois genres. Hein, il y a les hommes, les femmes et les eunuques. Et pourquoi, dans l'histoire du poil, justement, parler de cette organisation-là? Qu'est-ce qui se joue?
Parce que les eunuques, en principe, sont imberbes. Mm-hmm. Donc le poil joue un rôle dans la fondation, si je puis dire, d'un savoir sur l'identité des personnes. On sait qu'on a affaire à un eunuque, d'abord parce qu'il a une morphologie un peu particulière, et ensuite parce qu'il est imberbe. L'amour qu'avaient les Byzantins, c'est-à-dire tous les gens qui ont vécu dans la partie orientale de la Méditerranée entre le 5e et le 15e siècle, pour les hommes, porter la barbe, c'était dire qu'il n'était pas eunuque. Faire savoir immédiatement qu'il n'était pas eunuque.
D'accord. Et donc cette différenciation justement des genres à travers le poil à l'époque byzantine était fondamentale.
Oui.
C'est-à-dire que l'eunuque était considéré comme un sous-homme ou l'équivalent de la femme, ou vraiment une espèce entre guillemets à part.
Il était considéré. Alors ça, il faut lire les œuvres de Georges Sidéris, qui a beaucoup travaillé sur les eunuques à Byzance. Les eunuques étaient considérés comme un genre à part. Oui.
Alors le poil, j'ai l'impression aujourd'hui que plus il y en a en haut, moins il y en a en bas.
Oui, on peut dire ça comme ça.
C'est peut-être un résumé, mais d'où vient cette mode aujourd'hui que les gens s'épilent et notamment s'épilent le pubis?
Pour les femmes, pour les hommes, c'est effectivement très nouveau, je crois. Pour la société française en général.
Voilà, parce que l'épilation intégrale, on la retrouve, me semble-t-il, à l'époque des pharaons.
Oui, ah non, mais je parlais de l'époque contemporaine, là. Mm-hmm.
Enfin, chez les hommes et les femmes, je veux dire. C'est pas quelque chose vraiment qui apparaît, qui n'a jamais existé dans l'histoire.
Ah non, pas du tout. Mm-hmm. Pas du tout. Mais comme on parlait de la période contemporaine, je pensais à la société française actuelle. Mm-hmm. Effectivement, pour les hommes, enfin l'épilation des hommes est quelque chose de nouveau, me semble-t-il.
Il y a une question qu'on pose, hein, c'est en quoi les musulmans aujourd'hui ont joué un rôle dans cette mode?
Ah ben ils ont sûrement joué un rôle, hein, ça c'est évident. Hein. dans la mesure où une part importante de la société française est de religion ou de culture musulmane, l'épilation masculine étant la règle dans cette partie de la population française, ça s'est forcément diffusé. Ça s'est,
Alors, dans l'histoire, justement, enfin, je pense que c'est à l'époque des croisades, il y a eu cette découverte, justement, des femmes d'Orient qui s'épilaient donc le pubis. Et n'y avait-il pas cette fascination ou cette transgression qui a peut-être ressurgi et questionné en fait sur parce qu'en fait dans le livre j'ai l'impression qu'il y a il y a deux choses contradictoires historiquement, c'est-à-dire que on peut penser que justement l'épilation peut avoir une certaine connotation érotique et a contrario, on le voit bien d'ailleurs avec le tableau de Courbet et son élimination d'ailleurs sur Facebook, enfin toute la polémique que ça a fait parce que on y voyait le sexe d'une femme présentant des poils. A contrario, il y a aussi cet argument que les poils sur un pubis féminin ont une intensité beaucoup plus érotique qu'un sexe sans poils. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de nos jours, puisque on sait que la pornographie a joué un rôle important dans la représentation des corps masculins et féminins qui sont en grande majorité épilés intégralement.
Ben, de nos jours, je pense que en ce qui concerne les femmes, il y a eu la conjonction de deux tendances. D'une part, effectivement, l'importance croissante prise dans la population par la population ayant une culture ou une religion musulmane, d'une part, et d'autre part, le puritanisme chrétien, là, enfin d'origine chrétienne, qui veut que la femme soit épilée. Mais je pense que dans les deux cas, si je puis me permettre, mais ça c'est un avis personnel qui n'est pas vraiment un avis d'historienne, ce qu'on veut c'est que la femme soit, et d'ailleurs puisque la pornographie a repris la chose, ça me paraît le confirmer, on veut que la femme soit comme une petite fille, que la femme soit soumise comme une petite fille.
Mais il y a dans la pornographie également l'épilation des hommes. Donc que dire vrai, justement de ce phénomène qui semble être un peu queerisé, si je peux dire ça comme ça.
Ouais. Oui, ça, j'ai pas d'avis. Bon, c'est peut-être le fait que là aussi la part de la population masculine qui se revendique homosexuelle est devenue beaucoup plus large qu'elle n'était auparavant. Il y a ça aussi, parce que qui peut jouer ça. C'est possible et même probable, mais bon.
D'accord. Donc
parce que de toute façon, il y a tous les goûts dans la communauté homosexuelle, donc ça n'est pas plus.
Oui, très souvent le procès justement qui est fait au poil sont représentés par les arguments suivants. On a des personnes qui disent le poil ce n'est pas féminin. Bon, là on voit que de nos jours même les hommes s'épilent. Alors effectivement, comme disait Philippe, le poil a migré, hein, puisqu'il est plus important en haut qu'en bas. Il y a l'argument aussi les hommes préfèrent quand il n'y a pas de poil. Alors, quid des femmes, hein. C'est intéressant. Sans les poils, les sensations sexuelles sont décuplées. Ça, c'est ce qu'on entend aussi assez souvent. Les poils renferment des mauvaises odeurs. Ce n'est pas hygiénique, donc l'argument hygiéniste.
Oui, ça c'est, oui, mais ça, c'est, la, ça, c'est effectivement, c'est ce qui fonde le, la décision dans la religion musulmane. Hein, c'est que c'est, pas pu, c'est la pureté. Oui.
Il serait intéressant justement, je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite là-dessus, mais parce que vous parlez en fait du poil, la représentation du poil des premiers textes bibliques jusqu'à Freud, et on voit en réalité que on ne peut pas donner réellement de signification si ce n'est celle qui entre dans le contexte politique, social, du moment et du lieu.
Oui, c'est exact. Mais pour ce qui est du poil féminin, par exemple, dans la société française, si vous regardez tous les tableaux justement de la fin du 19e siècle, les tableaux pompiers, pardon, les femmes n'ont pas de poils. Les femmes nues sont représentées sans poils pubiens. Et dans tous les tableaux qu'on appelle pompiers. En revanche,
c'est quoi un tableau pompier ?
Alors, un tableau pompier, c'est un tableau qui n'est pas fait par les impressionnistes déjà.
D'accord.
Qui sont à la même époque et qui est l'art officiel, disons. L'art officiel, qui est l'art des peintres qui sont à l'académie, des beaux-arts, qui enseignent aux beaux-arts, enfin, etc.
Ceci n'ayant rien à voir avec cela, la sainte patronne des sapeurs-pompiers s'appelle Sainte Barbe.
Oui, absolument. Des artilleurs aussi.
Des artilleurs, voilà. Bon.
Oui, c'est vrai. Et elle a été enfermée par son père dans une... elle s'est laissée enfermer, je ne sais plus exactement. C'est une histoire de, comme il y en a beaucoup, de martyrs au moment de la persécution de Dioclétien, enfin, quand l'Empire romain a persécuté les chrétiens. Et donc le père était païen, la fille était chrétienne. Et la fille a été enfermée, oui, je pense, ou s'est fait faire enfermer dans une tour où elle est morte. Voilà. Et alors, je sais plus exactement comment on en est arrivé, peut-être à cause de son. Enfin,
comment on en est arrivé à ce qu'elle devienne la patronne des artilleurs, voilà. En fait, c'est pour ça.
Voilà, ouais.
Ça va être une histoire de poil encore.
Alors, le poil fait, est aussi victime de la mode. Hein, on le voit de Louis XIV jusqu'à nos jours, hein, puisque vous nous expliquerez, hein, à l'époque de Louis XIV, il y a eu cette mode de la perruque. Et puis, de nos jours, il y a le retour des poils sur les jambes des femmes, sur le pubis des femmes, au niveau des aisselles. Et on le voit incarné par certaines stars, notamment de la musique, et certaines actrices. Donc il y a un effet de mode aussi induit par des icônes. Si on reprend l'exemple de Louis XIV, la fameuse perruque, c'est à la base, vous allez nous expliquer, elle servait à camoufler un état, on va dire, pathologique de ce roi.
Oui, c'est très jeune. À 20 ans, il a perdu ses cheveux à la suite d'une maladie et du remède qu'on lui a donné pour arrêter cette maladie. Et donc, il a immédiatement fait faire une perruque. Et dans les 3 mois, tous les courtisans s'étaient mis à avoir une perruque. Et parce que le roi regardait d'un œil extrêmement mauvais tous les jeunes gens qui, eux, avaient gardé leurs cheveux et qui pouvaient faire les jolis cœurs, tandis que lui ne pouvait plus. Donc voilà, là c'est une question, c'est pas une question d'icône, c'est une question de pouvoir.
Et les rois après lui ont eu des perruques.
Et c'est une mode qui a perduré.
Oui, c'est une mode absolument incroyable, parce que tous ces cheveux qui étaient des cheveux naturels, donc ça voulait dire aussi qu'il y avait des cheveux coupés, il y avait tout un commerce des cheveux pour faire les perruques. Et ensuite, il y a eu la poudre, parce qu'on a, au 18e, on a poudré.
Pour blanchir les perruques.
On les a poudrées pour les faire apparaître grises. Et donc, il y a eu de la farine a été utilisée pour poudrer. Et donc, c'est de la farine qui ne servait pas pour le pain, alors qu'il y avait des crises alimentaires terribles. Tout ça est quand même tout à fait intéressant, parce que pour une question de poil, bah, on a une représentation du pouvoir au XVIIe siècle et du pouvoir en plus du royaume de France, parce que la perruque s'est développée dans toute l'Europe.
Est-ce qu'on peut dire que la Révolution française, justement, enfin, en tout cas, pas spécifiquement sur cette histoire de la perruque, mais est-ce que cette histoire de perruque a été un élément aussi qui a facilité la Révolution française, puisque vous dites que la farine alimentaire, alors qu'on était en période de crise, était utilisée pour poudrer la perruque messieurs et dames de la cour.
On l'a dit qu'effectivement, ça avait alimenté le ressentiment, à juste titre. Et que ça pouvait être une des causes. Enfin, c'était pas la seule, évidemment.
Bien, Marie-France Osépi, vous restez avec nous. Nous saurons dans un instant si Napoléon était barbu ou pas. Nous lisons ce matin.
Il n'était pas.
Ah ben, si vous dites avant.
Il pouvait pas l'être.
Et pourquoi il pouvait pas l'être ?
Eh ben, nous le saurons après.
Il pouvait pas l'être parce que c'est un homme des Lumières. Donc, un homme des Lumières, il est imberbe. Un homme du 18e, les Lumières, il est imberbe. Oui, ça, c'est sûr. Oui.
Marie-France est formidable. Elle répond aux questions avant la page de publicité. Mais vous revenez dans un instant.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Nadia El-Bougal, notre invitée, c'est Marie-France Osépi. Elle est historienne, elle dirigeait cette histoire du poil dont nous parlons ce matin. Et Marie-France est vraiment la spécialiste du poil, on peut le voir ce matin. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui cohabitent. Il y a les poils sous les bras qui reviennent chez les femmes, il y a les barbes qui sont chez les hommes. Avant, la barbe, Marie-France, c'était un signe de virilité. Aujourd'hui, est-ce que la barbe, c'est encore un signe de virilité ?
Ah, ça dépend. La barbe peut être un signe de beaucoup de choses, hein. Pas forcément de virilité. Ça peut être un signe de négligence, interprété comme un signe de négligence.
Aujourd'hui, les barbes sont très entretenues, hein, quand vous regardez les gens. Elles sont très fournies, et très entretenues.
Oui, mais enfin, ça dépend les barbes de qui aussi. Il n'y a pas que le marais et...
Alors là, je sais pas, Marie-France Osépi, dans quel monde vous vivez, mais il faut sortir un petit peu. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens autour de nous qui ont la barbe, qui ont des barbes
autour
qui sont...
Autour de nous, en ville, mais si vous allez à la campagne...
Qui sont très entretenues et qui sont très longues, et les gens dépensent beaucoup d'argent pour leur barbe. Sortez de Versailles.
Oui, il y a la mode hipster, d'ailleurs, qui donne cette impression que la barbe est laissée un peu à la sauvage, mais en fait, elle est vraiment très cultivée, très chouchoutée. Ce sont des hommes qui vraiment font très attention à leur. Il y a maintenant des shampoings pour barbe, cosmétiques tout à fait pour barbe.
Qui ont ressurgi depuis 4-5 ans, alors que effectivement c'était un métier qui avait entièrement disparu.
Le métier de barbier, hein.
Ben oui.
Oui.
Et désormais, il y a des barbiers, il y a des boutiques de barbiers, c'est une nouveauté. Ce qui prouve à quel point la mode, je suis entièrement d'accord. Mais simplement, toutes les barbes qu'on peut voir sur le territoire national
ne sont pas les mêmes.
Oui, il y a barbe et barbe.
Quelle est la fonction des poils ? Parce que finalement, si on en a, c'est qu'ils servent à quelque chose.
À quoi ils servent ? Ça devait servir dans le temps de fourrure, hein, à ne pas avoir froid, j'imagine, dans le temps jadis, il y a longtemps. Parce que quand on ne savait pas se couvrir, j'imagine que ça servait à ça.
Après, la question, c'est savoir si on en a, pourquoi les enlever, finalement.
Bah oui, mais ça fait partie, ça fait partie du jeu. Quand on est un être humain, il y a des trucs qu'on peut faire, on les essaye. Alors, on coupe, on tresse, on.
Alors, on fait plein de choses. C'est intéressant de voir que le sens, on s'intéresse au sens que le poil peut avoir. Et là, comme nous parlons de la barbe, nous allons rester sur la barbe. J'ai découvert que Freud, finalement, dans son travail, ne s'est pas forcément intéressé au poil, mais qu'en réalité, c'est sur un malentendu. Qu'il a évoqué le poil.
Oui,
sur un malentendu linguistique, enfin sur une erreur de frappe même précisément.
Oui, c'est ce que dit Patrick Avram dans l'histoire du poil. Mais effectivement, ce qui est tout à fait amusant avec Freud et la barbe, c'est que parmi tous les disciples de Freud, tous étaient imberbes alors que Freud était barbu. Et sur les photos c'est de Freud et de ses élèves, c'est absolument merveilleux parce qu'effectivement, ils sont tous imberbes. Freud est barbu et il y en a un qui a la moustache, c'est Jung qui va faire sécession. Donc
c'est de l'humour d'historien, voyez.
Voilà. C'est quand même amusant. Voilà.
Qui était un de ses condisciples d'ailleurs. Nadia.
Oui, en fait, je parlais donc de cette fameuse faute de frappe lors d'une lettre que Freud avait écrite en 1897. Enfin bref, et c'est dans ce courrier, en fait, alors je ne suis pas du tout germanophone, donc vous excuserez mon accent, mais à la base, il voulait écrire urine, donc. Harn, H-A-R-N, et il a tapé Har, H-A-A-R-E. Excusez-moi les germanophones, mais je n'ai pas fait allemand en langue première, donc du coup, première langue.
D'ailleurs,
donc,
anglais voilà. Non plus, Nadia.
Ça aurait été d'espagnol, ce serait plus simple. Donc du coup, c'est sur cette faute de frappe que le malentendu s'est immiscé. Et du coup, il a dû évoquer cette problématique pileuse par la suite dans ses interprétations, notamment au moment des interprétations des rêves de certains de ses patients.
Alors, on enchaîne, hein, parce que sinon on va s'arrêter. Marie-France, dites-nous, comment les soldats de la guerre de 14-18 sont-ils devenus les poilus alors qu'ils refusaient qu'on les appelle les poilus ?
Oui. Eux, ils ne voulaient pas donner d'eux-mêmes, justement, une apparence négligée. Ils faisaient tout pour essayer de garder quand même figure humaine dans les conditions abominables dans lesquelles ils vivaient. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas être appelés les poilus. Mais on les a appelés les poilus parce que, semble-t-il, c'est un mot à la limite de l'argot, le poilu, pour dire un homme brave, en fait. Et donc, le mot a été généralisé, mais par l'arrière, en fait, et pas par les combattants.
Mais ils sont restés pour nous les poilus.
Voilà.
D'ailleurs, le mot existait avant, hein, cette période-là, avant la guerre de 14. Hein.
Oui, bien sûr, c'est parce qu'il avait le sens d'homme courageux, d'homme couillu, si vous voulez, qui ne combattait pas, a donné ce nom-là aux combattants, qui eux n'en voulaient pas parce que ils voulaient pas donner l'impression qu'ils étaient poilus, poilus négligés.
Je m'adresse à la sexologue Nadia Elbouga. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur la mode des poils ? Parce que tout va très vite finalement, entre le pas de poils et trop de poils, ça va très très vite. Et même les genres cohabitent.
Bien sûr.
Il y a les genres. Alors vous n'êtes pas Nadia Elbouga, hein, Marie-France. Hein. Attention, hein, vous êtes l'historienne, vous n'êtes pas la sexologue. Je sépare bien et je ne voudrais pas vous demander d'être compétente dans un domaine où je sens que vous n'êtes pas compétente. Alors, Nadia.
Oui, alors en fait, il y a effectivement cette défense du poil qui naît ou renaît. Hein. Ça, c'est, du coup, c'est l'historienne qui nous dira si ça renaît. Mais effectivement, on remarque, d'ailleurs, au niveau des universités, on voit des mouvements féministes qui reprennent justement leur...
Et qui assument
cet argument justement de ne pas
se laisser
dicter en fait cette injonction en fait du rasage. Hein. Donc il y a on voit hein, de plus en plus de jeunes femmes maintenant
qui ne s'épilent pas et qui l'assument et qui disent
et qui
moi voilà
donc qui ne s'épilent pas le pubis, qui ne s'épilent pas les jambes, qui ne s'épilent pas les aisselles.
Mon mari n'est pas d'accord, mais j'assume.
Voilà. Et c'est quelque chose qui est apparu avec l'historienne Corbora, avec la deuxième vague féministe des années 70, en fait, avec cette idée justement que, eh bien, puisqu'on veut nous imposer un diktat de beauté avec une femme complètement lisse, et aussi en arrière-fond, hein, comme l'a dit Madame Osepi, cette idée de la femme infantilisée et qui finalement est complètement lissée comme le serait comme la jeune petite fille.
Et en face, il y a ceux qui disent « Ouh là là, le poil, c'est sale !» Et donc, qu'il l'éradique. Et c'est vraiment de l'éradication.
Exactement. Il y a de l'autre côté. Alors, ceux qui disent « Oui, c'est ça », donc l'argument hygiéniste. Et ceux qui disent « Oui, mais attendez, c'est bien gentil, mais il faut qu'on différencie les genres. Un homme, c'est voilà, il faut qu'on puisse reconnaître l'homme de la femme. Donc, un homme ne peut pas être lisse. Il doit être barbu, touffu. Et c'est une expression un peu de sa... De sa force, de sa forte testostérone, ce qui est paradoxal d'ailleurs, hein, puisque les hommes qui ont un fort taux de testostérone, en règle générale, perdent leurs
cheveux,
leurs poils, voilà. Donc c'est assez paradoxal. Mais voilà, il y a cette idée-là aussi qui se joue en arrière-fond, et d'où d'ailleurs l'argument des féministes, enfin d'une certaine tranche de féministes qui disent, ben voilà, on va aussi utiliser ce poil pour déconstruire la différenciation des genres et du coup le déséquilibre, l'inégalité entre les genres.
On a des hommes aujourd'hui qui s'épilent le torse. Hein.
Oui, et de plus en plus d'ailleurs, c'est très intéressant de faire un tour.
Marie-Françoise a un mot à dire sur l'épilation du torse. Marie-Françoise.
Non, oui.
Oui, c'est très intéressant de faire un tour chez les esthéticiennes et de leur poser la question parce qu'effectivement maintenant on a toute une gamme. Alors les hommes s'épilent le torse, les hommes s'épilent les sourcils, des choses qui jusqu'à maintenant étaient prêtées uniquement au genre féminin. Donc c'est très intéressant parce que ça participe.
Le dos a été longtemps un complexe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont complexés du poil dans le dos.
Oui, beaucoup d'hommes, effectivement, qui étaient complexés sur la plage, qui n'osaient pas justement se dévêtir du haut, parce qu'ils avaient une forme d'hypertrichose, hein, donc d'un surplus de poils.
L'hypertrichose.
Voilà, au niveau du dos. Mais c'est intéressant, je reviens sur l'argument de certaines féministes. Ça participe justement à cette défense du poil, ça participe aussi de l'idée c'est un argument politique aussi, hein, de cette idée queer, c'est-à-dire de ne plus rester dans cette binarité homme-femme, masculin-féminin, mais de brouiller un peu les genres, mais pour finalement à des fins politique d'égalité entre les hommes et les femmes.
Donc ça veut dire que d'un côté on a des hommes qui s'épilent et d'un autre côté on a des femmes qui se laissent pousser le poil.
Oui, c'est pas aussi binaire que ça, mais on a en tout cas l'apparition, je dirais plutôt, de parti pris au niveau pileux qui jusqu'à maintenant était complètement proscrit. Et là, en fait, de part et d'autre, on voit que les codes des canons de beauté changent, mais en arrière-fond, c'est éminemment politique. Donc c'est intéressant justement parce que du coup, on sort, en tout cas, on essaye à travers le poil de sortir de cette soumission de la femme qui devrait se présenter sous une forme complètement lisse.
Et aujourd'hui, avec la mondialisation, est-ce que les modes sont internationales, elles sont mondiales, ou chaque pays garde une spécificité?
Alors là, c'est une question pour l'historienne.
Ça, je sais pas exactement, parce que je connais pas la position de chaque endroit du monde par rapport au poil. Mais bon, il est probable que c'est comme le reste, c'est-à-dire que il y a une tendance à la globalisation avec des résistances locales.
Alors, on le voit indéniablement avec la pornographie mainstream, que vu que maintenant elle est mondialisée, qu'elle est en accès plus que libre sur Internet, qui a un impact sur les corps. Hein. On voit hein, de alors c'est peut-être pas le bon exemple, j'allais dire de Malaisie jusqu'aux États-Unis, mais
laissez la Malaisie tranquille.
Non, parce que c'est un pays musulman, donc ils ont pris les codes de la sunna, mais voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement sur le globe, en fonction de différents pays par lesquels on passe, on remarque tout de même que le code pileux réservé aux femmes, c'est plutôt l'épilation que de laisser pousser le poil.
Oui. Non, mais l'épilation, c'est sûr que l'épilation pubienne, c'est quand même une marque de soumission. Enfin, c'est un effort que fait la femme pour transformer sa nature, qui n'est pas... si elle fait rien, elle a des poils. Mmh. Pour qu'elle n'en ait plus, il faut qu'elle fasse quelque chose.
D'ailleurs, longtemps, on a appelé cette épilation l'épilation orientale.
C'est évident. Mmh. C'est quand même très douloureux, l'épilation. C'est quand même... voilà. Il faut aussi... c'est peut-être toute une construction de genre, tout ce qu'on veut, c'est vrai, que les féministes et moi je suis plutôt la génération de 68, hein, donc bah, effectivement, il n'était pas question de s'épiler, c'était quand même l'idée était rejetée, comme le soutien-gorge était rejeté, enfin je veux dire c'était ça allait de soi. Après la grande période de diktat hygiéniste d'un côté, et puis des industries cosmétiques de l'autre, pour que la femme soit épilée.
Alors oui, il faut pas l'oublier, effectivement il y a le triomphe du marketing de masse. Et d'ailleurs maintenant une nouvelle branche du marketing dépilatoire qui a une niche chez les hommes. Il y a ça aussi qui
contribue. C'est un business en fait.
Ah, c'est un gros business.
Oui, bien sûr.
Et c'est un business effectivement très juteux.
C'est un business, donc oui. Et tout ça est en direction d'une femme épilée, d'un homme épilé aussi, d'ailleurs.
Et barbu.
Et barbu.
Bien. Allez, Marie-France Osépi, merci d'avoir été avec nous. On vous avait promis une émission au poil. Je crois qu'on a vraiment été à la hauteur, Nadia, ce matin. L'histoire du poil, c'est le livre que vous avez dirigé, Marie-France Osépi. Merci d'avoir été avec nous. Et demain, c'est le docteur Delabeau qui sera avec nous. Bonne journée à tous.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.